Oui.
Bon, je ne veux pas aller trop loin de la question, parce que peut-être c'est la conclusion, mais puisqu'on parlait, voilà, de cette guerre qui est déjà en place, et puisque la rhétorique joue une place tellement importante, pour nous, est-ce qu'on doit aussi pousser au niveau de la rhétorique, est-ce qu'on doit aussi rentrer dans ces... Oui, utiliser les mêmes armes avec nos arguments, mais...
Alors,
c'est quand même ouais. Après, ouais, sur les terrains, c'est évident. Non, je veux dire, quand on utilise du droit à l'UNI, quand on nous balance, voilà, j'imagine c'est lui qui a comme prof Monsieur Borrillo.
Bah, je pense que, enfin, pour répondre rapidement, mais j'en reparlerai un peu à la fin, c'est que. Pour nous, bien sûr que la rhétorique, c'est quelque chose d'important, mais pour nous, la rhétorique ne peut pas du tout avoir le caractère central qu'elle a pour Butler, parce que d'une certaine manière, pour Butler, tout ce qu'elle déconstruit, elle le déconstruit comme étant de la rhétorique, finalement, puisqu'on est dans ce qu'on va voir, ce qu'on va retrouver maintenant. Donc la rhétorique, à la limite, pour nous, elle peut être effectivement dans une recherche de comment articuler ce que nous considérons comme bon pour l'être humain, à partir d'une certaine expérience commune, comment déployer des témoignages de l'éducation et des voies d'accès, justement, à la bonté interne de l'amour humain, de la communion, etc. Mais c'est plus... il peut y avoir une part de rhétorique... Parce que dans la pédagogie, il peut avoir une part de rhétorique, comme dans tout discours qui s'adresse à un auditoire. Mais je pense que c'est plus dans l'ordre de la pédagogie, mais d'une pédagogie qui, du coup, implique un vrai travail de réflexion sur soi-même et sur le rapport et notre situation par rapport au monde contemporain. Et ça c'est ça qui est exigeant. Parce qu'on ne peut pas se... Enfin, me semble-t-il, hein, mais bon, après, on peut penser autre chose, mais... Il ne me semble pas qu'on puisse se concentrer simplement sur le contenu interne, par exemple de l'anthropologie, de la sexualité, etc. Il y a aussi tout ce travail de prise en compte comment la manifester pour qu'elle soit reçue. Parce que la pédagogie, elle présuppose que ceux qui reçoivent ce qui est reçu, il y a un adage hein, chez saint Thomas qui dit ce qui est reçu selon le mode de celui qui reçoit. Donc c'est une autre manière de dire ce que je disais sur la disposition. La manière dont je reçois les choses dépend de ma disposition intérieure. D'où les malentendus, par exemple, dans les relations. Hein. Moi, j'ai dit quelque chose à quelqu'un, et puis l'autre, il était disposé d'une certaine manière que j'ignorais, alors il prend très mal, mais je ne voulais pas du tout lui faire du mal. Ben, il a reçu selon son mode, et comme il était disposé de cette manière, ben, il a mal compris ce que j'ai dit. Du coup, ça veut dire que pour nous, quand on est justement dans un rôle d'enseignement, d'éducation, d'explicitation, de témoignage, il y a un minimum de prise en compte du contexte, d'où l'importance, me semble-t-il, de réfléchir sur ces auteurs, hein, parce qu'on pourrait dire... Est-ce qu'on va se casser les pieds à lire des auteurs qui pensent des choses pareilles? Bah parce que, malheureusement, parce qu'on vit dans le monde d'aujourd'hui, où il y a certaines personnes qui pensent ça et qui c'est dans l'ordre des représentations. Donc on peut très bien s'en abstraire, mais à partir du moment où on s'en abstrait, c'est autant de modes d'accès à ce qu'il peut avoir dans la tête, non pas de tout le monde, heureusement, mais de choses qui circulent, qu'on peut retrouver de manière totalement inconsciente chez des gens qui n'auront jamais lu une ligne de Butler, et tant mieux pour eux, ça, ils auront fait des économies d'aspirine ou de Liprane, mais néanmoins, ça passera, enfin, je veux dire, ça sera quand même présent, comme une sorte de rayonnement diffus. Ouais.
Cette façon d'envahir le pouvoir, non, qui dit Foucault, c'est une espèce de cancer, quoi. Ce serait ça son stratégie, de rester toujours là et faire péter les choses un peu ici, un peu là.
Guérilla, il le dit lui-même. Alors, c'est bon ? On finit le texte sur la parodie ? Alors. J'avais commencé à le lire ou pas ? Je ne sais plus. Un tout petit peu ? Le page 15 ? Non, le page 15.
14.
Non, là, c'est page 15, en fait. Je crois, attendez que je me... Comme ils sont pas... Ah oui, alors, excusez-moi, attendez, c'était quel... En fait, les pages 14, 15, 16, évidemment que je ne vais pas lire, je n'ai pas le temps de les lire là. C'est un peu sur ces trois textes qui sont dans la fin de Troupe dans le genre, qui sont la dernière, toute dernière partie, dans lesquels... Butler développe, on pourrait dire, sa résolution positivement, entre guillemets. Alors, non, je vais quand même prendre quelques extraits de la page 14, parce que alors, je lis depuis le début, en haut de la page 14. L'idée qu'il y aurait une identité de genre originale ou primaire est souvent objet de parodie dans les pratiques drague, dans le travestissement et la stylisation sexuelle des identités butch et femme. Donc butch et femme, hein, c'est deux manières de s'habiller, des lesbiennes, soit plutôt féminines, soit plutôt masculines. Non. Là, on rentre dans la subculture californio-lesbienne. Les féministes ont souvent considéré que ces identités parodiques étaient dégradantes pour les femmes dans le cas du drag et du travestissement, ou que les jeux de rôle sexuels reproduisaient de manière stéréotypée et sans prendre de distance critique les normes hétérosexuelles. Mais le rapport entre l'imitation et l'original est, je crois, plus complexe que cette critique féministe ne le laisse généralement penser. De plus, cela nous donne une idée de la manière dont le rapport entre l'identification primaire, c'est-à-dire les significations originales attribuées au genre, et l'expérience subséquente du genre pourrait être formulé. La performance drague joue sur la distinction entre l'anatomie de l'acteur ou l'actrice de la performance et le genre qui en est l'objet. Mais en réalité, nous avons affaire à trois dimensions contingentes de la corporéité signifiante. Le sexe anatomique, l'identité de genre et la performance du genre. Si l'anatomie de l'acteur ou l'actrice de la performance est déjà distincte de son genre, et si l'anatomie et le genre de cette personne sont tous deux distincts du genre de la performance, alors celle-ci implique une dissonance non seulement entre le sexe et le genre, mais aussi entre le genre et la performance. Si le drag produit une image unifiée de la femme, ce qu'on critique souvent, il révèle aussi tous les différents aspects de l'expérience genrée qui sont artificiellement naturalisés en une unité à travers la fiction régulatrice de la cohérence sexuelle, hétérosexuelle. En imitant le genre, le drag révèle implicitement la structure imitative du genre lui-même, ainsi que sa contingence. En fait, une partie du plaisir de l'étourdissement dans la performance vient de la reconnaissance que le rapport entre le sexe et le genre est entièrement contingent vis-à-vis des configurations culturelles que peuvent prendre les unités causales censées naturelles et nécessaires. En lieu et place de la loi de cohérence hétérosexuelle, nous voyons le sexe et le genre être dénaturalisés à travers une performance qui reconnaît leur clarté et met en scène le mécanisme culturel qui fabrique leur unité. L'idée que je soutiens ici, à savoir que le genre est une parodie, ne présuppose pas l'existence d'un original qui serait imité par de telles identités parodiques. Au fond, la parodie porte sur l'idée même d'original, tout comme la notion psychanalytique d'identification de genre renvoie au fantasme d'un fantasme. La parodie du genre révèle que l'identité originale, à partir de laquelle le genre se construit, est une imitation sans original. Plus précisément, on a affaire à une production dont l'un des effets consiste à se faire passer pour une imitation. Cette déstabilisation permanente des identités les rend fluides et leur permet d'être signifiées et contextualisées de manière nouvelle. La prolifération parodique des identités empêche que la culture hégémonique ainsi que ses détracteurs et détractrices invoquent des identités naturalisées ou essentielles. Les significations de genre reprises par ces styles parodiques participent manifestement de la culture misogyne dominante, mais elles n'en sont pas moins dénaturalisées et enrôlées par la parodie qui met en scène leurs conditions de production. En tant qu'imitation déstabilisant en effet la signification de l'original, elles imitent le mythe même de l'originalité. Au lieu de considérer l'identité de genre comme une identification originale servant de cause déterminante, on pourrait la redéfinir comme une histoire personnelle culturelle de signification reçue, prise dans un ensemble de pratiques imitatives qui renvoie indirectement à d'autres imitations et qui, ensemble, construisent l'illusion d'un soi genré original et intérieur, ou encore qui parodie le mécanisme de cette construction.